שיחזמי השם עליכם תחיו לאורך חיים טובים ושנים נעימים. Nous poursuivons notre étude du Zera Shimshon, du maître illustre Rabbeinu Shimshon Haim Nahmani, que son mérite nous accompagne. Nous sommes Parashat Toldot, au Darush Yud Bet. Ezenu Beshem Adonai, Ose Shamaim Baaret. Le pasuk dit, Ki ikra Hashem Elohecha Lefanai. Quand Yitzhak, il dit à Yaakov, qu'il prend pour Esav, il dit, mais comment ça se fait que tu as fait tellement vite? Il dit, Ki ikra Hashem Elohecha. Parce que c'est Hashem, ton Dieu, qui m'a présenté la chose et que j'ai réussi à le faire de manière rapide. La question se pose, pourquoi il dit Hashem Elohecha? Hashem, ton Dieu. Pourquoi il ne dit pas Hashem? Kashe la mozar lomar kan Elohecha. Ben alors, Ayadai lomar ki ikra Hashem lefanai. Il était suffisant de dire que Hashem, c'est le Tout-Puissant, Hashem et Barach, il m'a présenté la chose et je trouvais facilement. Il aurait dû dire, pourquoi ton Dieu, pourquoi il ne dit pas Hashem Elohim? Hashem, c'est celui qui dit, guide, et Elohim, c'est le Dieu qui est à travers la nature, donc il maîtrise la nature. Il dit, Elohim, c'est suffisant. Il y a lieu de dire, il y a Kavanat, que l'intention de Yaakov a été allé à Shiv, Loatam, Lama, Mier, Limso. Il a voulu lui répondre pourquoi il a fait vite. Il a trouvé rapidement le gibier. Mais Amarlo, et il lui dit, qui écrit Hashem? Shezeaya Bederes. Hashem. Hashem Elokim Yotke Vavke. C'est le sens de l'action miraculeuse. C'est la conduite miraculeuse de ce monde. Qui n'a aucune limite. La nature n'a pas de prise sur cette conduite du monde. Cependant, Jacob, il a eu un peu une crainte que peut-être que Yitzhak ne voudrait pas profiter de ce qui est produit par le miracle. Comme il y a marqué, la Gemara dans Ta'anit, qu'il ne faut pas profiter de ce qui est miraculeux. C'est pour ça qu'il lui a dit Elohecha. C'est quoi Elohecha? Hachem, il te fait à toi des miracles, mais toi tu es habitué au miracle, toi, Yaakov, Kloma. Enze, ça ne s'appelle pas un S pour toi. Toi, tu es tellement habitué au miracle, Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il se comporte vis-à-vis de toi, que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et Rachid dit, quand on voit dans le pasuk que Yaakov, plus tard, il va fuir, il va dormir au lieu du temple, et il va faire le rêve. Il va avoir une échelle. Donc il va avoir Vine Hashem, Nitzav Alav. Et Hashem, il se tient sur lui, sur l'échelle, sur lui. Quand il dit, je suis le Dieu d'Abraham et de Yitzhak. D'accord? Quand il est chez moi, à Yitzhak. Il dit, Dieu, il a placé son nom, il a uni son nom à Yitzhak. Pourquoi? Voilà qu'en général, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mis à Hed Shemo sur les êtres vivants, seulement sur ceux qui ont disparu. Parce que peut-être que l'homme aujourd'hui il est tzaddik, demain il ne sera pas tzaddik. Kan Yehed Shemo Alitak, les filles chez Kahu Ena, parce qu'il était aveugle, il était enfermé à la maison, il ne peut pas sortir. C'est comme si il est emprisonné, donc il est. Le Yetzerara, il a été réduit, éliminé de lui. Il n'a plus de Yetzerara. Comme ça explique Rashi. J'arrête Katav Rashi à la pasuk. Alors il dit c'est ça ce qu'il a dit. Vekelo gare ou kemet, v'etzerara pasak memeno. C'est ce que dit Rashi. Il n'a plus de etzerara. Ve'oil she'el necha etzerara. Voilà, il lui dit. Alors Yaakov, il lui dit toi, etzerara, tu n'as plus d'etzerara. Yeshlicha lechol ba'olam azé, v'leinot du ma'asé nisim. Même dans ce monde, tu peux consommer et jouir en ce monde, physiquement. Des choses miraculeuses. Chez vous, c'est rare que le miracle il est réservé dans l'Olamaba. C'est la récompense du Olamaba. Pourquoi? Pourquoi toi, Yitzhak, tu as le droit? Les filles, chez Hachem, ou Elohecha? Parce qu'il dit Hachem, Elohecha. Hachem, il est ton Dieu. C'est-à-dire qu'il se comporte avec toi depuis toujours de manière miraculeuse. Et en particulier depuis que tu as perdu la vue. Yahed, chez moi, chez la Kadosh Baruch Hu, à Yitzhak. Et à Gavorhin, il y a la kahat moussa raskel. Et de là, nous avons, il y a lieu de prendre une grande leçon de cette histoire-là. Kol adam yesh lo le'akir b'chol ma'asav niflaot ma'ase Hashem. Que chacun, il doit observer, méditer, réfléchir sur ses, les événements qui lui arrivent. Combien Akadosh Baruch Hu, il lui procure de bonté, de bienfaits. Ki en b'koach ha'adam la'asot klum. L'homme, il n'a aucun pouvoir, aucune force d'agir. Il ne peut rien faire sans l'intervention de bonté, de miséricorde, de compassion que lui octroie Hachem. J'ai une dame qui a fait ce baron les matins. Et là, il me dit qu'il est mal. La Gemara a dit dans Holine que si un homme il lève la main en bas, c'est parce qu'en haut, on lui a donné la force, on a ordonné qu'il puisse lever la main, qu'il puisse agir. Donc c'est les énergies, le corps agit selon la volonté de l'homme, parce que on octroie à l'homme les énergies suffisantes pour ce qu'il puisse évoluer et agir et accomplir ce qu'il veut dans ce monde. De même, dans tous les bénéfices, toutes ces activités où il peut, il a une chance de gagner, où il gagne, il réussit. Alors, il ne devra pas dire qu'ils aient balo bishtadlut ha'atsum. Il dit parce que l'homme lui a dit comment tu as fait pour réussir ton business. Il dit parce que je me suis donné à fond et j'étais intelligent, j'ai réfléchi et kohi ve'rotsev. Il dit parce que j'ai investi du travail, du labeur, de l'intelligence, de la réflexion pour réussir. Et c'est pas ça. Et là, Hassad Hashem, tout ça. C'est, tu peux investir autant d'argent et autant d'énergie, d'intelligence, de travail et ne pas réussir. Donc si tu réussis, ne crois pas un instant que c'est toi qui a réussi, c'est Hachem qui t'a donné la réussite. Et là, Hesed Hachem Gamo. Il m'y a allé l'Igdoula. Si un homme il monte à une fonction importante, Alomar, il ne devra jamais dire que c'est par son intelligence, son savoir, etc. qu'il a réussi. C'est ça qui lui a permis. Non, Rak Hesed Hashem, tout ça c'est le Hesed Hashem. Et c'est ça ce qu'il dit à Yaakov, à Yitzhak, qui ikra Hashem Elohecha lefanecha. Que Hashem il a apporté, il m'a présenté devant moi. Hashem ton Dieu, il l'a apporté devant moi. Et à Raya, Sheare Yaakov, lo ikra lo akadosh brouklou, rakou halach likar Hashem negedim. Voilà qu'en vérité. Qu'est-ce qu'il a fait? En vérité, il n'y a rien eu. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Sa mère, elle dit, va au troupeau et prends deux agneaux. Ben, ça, autant, Mehera. Et sa mère, elle les a fait rapidement. Donc, il n'a pas eu besoin, Bémet, d'aller au champ, de capturer, de ramener, etc. Et ça, il a fait un court-circuit. Il est parti au troupeau. A priori, Yaakov, il a menti. Il n'a pas dit. Tu dis, qui écrit Hashem Elohecha lefanai. Et Dieu, il m'a apporté devant moi. Mais qu'est-ce qu'il t'a apporté? C'est toi qui es parti au troupeau. Et c'est ta mère qui a préparé. Alors, n'a-t-il pas menti? Qui l'a écrit Hashem Kloum. Et là, Hashem Itzad Atzman, le Utsrach Letikuna, Kol Karzman. Il n'avait pas nécessaire de faire tout ce qu'il aurait dû faire, aller au champ, mettre des pièges, capturer la bête, etc. Et la vada, Yaakov Ratzalomar, Akadosh Baruch Yaakov, il a voulu dire à Yitzhak, Shenit Gelgel Adavar Beratzon Abore ou Behazdo. C'est toute cette histoire-là, elle est engendrée par la volonté de Dieu qui s'applique. Que c'est moi qui dois te présenter et t'apporter, te servir ta nourriture. Et c'est pour cela, et je me suis empressé de t'apporter, de te présenter la nourriture. Pourquoi? Parce que c'est Hachem ton Dieu qui m'a conduit à cela. C'est-à-dire que toute cette démarche-là, ce n'est pas une démarche propre. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir préparé le manger. C'est la démarche, le fait que ce soit moi qui sois devant toi, qui me présente devant toi, et qui te donne et qui te présente et qui te sert à manger, c'est ça la volonté de Hakadosh Baruch Hu qui se réalise. Et ça, ce qu'il dit, Kikra Hashem Elohecha Lefanai. Lefanai velo lifnei ahi. C'est devant moi qu'il a présenté les choses. C'est moi qui l'a investi, qu'il m'a permis de réaliser cela. Parce que la volonté de Hakadosh Baruch Hu, c'est que moi, je t'apporte à manger et pas mon frère. Donc la destinée, là, Yaakov comprend et explique et traduit à Yitzhak que l'activité qu'il a, c'est la démarche qu'il a, c'est une démarche que Hakadosh Baruch Hu il a, c'est la destinée que Hakadosh Baruch Hu il a, et c'est la Hashgaha Pratit qui fait cela. Et à chaque instant, il doit voir ça, comment Hakadosh Baruch Hu il le guide, il lui permet d'aller à droite ou lui permet d'aller à gauche, de réaliser telle ou telle autre ambition, telle ou telle autre réalisation. Ça, si on a cela, hein, on a une observation juste. C'est-à-dire pour arriver à cela, il convient d'avoir de la hauteur sur les événements, sur notre propre destinée, sur les propres événements de notre journée, de les observer avec objectivité et de voir qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est les événements sont liés entre eux et qu'il y a quelqu'un qui guide les choses pour qu'elles arrivent à se réaliser. Et ça, c'est l'intelligence du Chacham qui arrive à voir la présence de Dieu, la destinée, la Hashgaha Pratit, comment elle s'applique dans le moindre détail du quotidien. Comme dit le Ramban, ça c'est l'intervention miraculeuse. Hashem Elohecha, comme nous l'avons dit, Hashem, c'est l'intervention miraculeuse qui se produit. Alors celui qui ne voit pas ça, ou qui ne croit pas à cela, dans le moindre détail de sa vie, dit le Ramban, que de la même manière que, attendez, vous il a ouvert la mer, il a fait des miracles prodigieux, la destinée de chaque individu, le quotidien, le moindre détail de sa vie, c'est de l'ordre du miracle. S'il ne croit pas à ça, « Elo Helek Belo Israël » nous dit le Ramban. Ce Ramban-là, il se situe, il se trouve à la fin de Parashat Bo, sur la Parashat des Tfilin, « Kadeshvi Kol Bechor ». Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve'amen. Nous poursuivons, chers amis, notre étude du Zerah Shimshon, Parashat Toldot ou Darush 14, Yud Dalet. Alors ici, il est dit que Yitzhak, il a senti les vêtements et il a senti l'odeur fabuleuse. Donc quand il sent les vêtements, là, il y a un petit point négatif. Il dit le mot Begadim. Il fait référence, c'est le mot Begadav, c'est le même terme que Bogdav, que Boged. Boged, c'est un trahison, quelqu'un qui est infidèle, les infidèles. Alors dit le Midrash Yalkut Shimoni, Vayara et Reah Begadav, il a senti l'odeur, le parfum de ses vêtements. Alors le Midrash il dit, Altikre Begadav, ne dis pas ses vêtements, et là Bogdav. Il a senti que dans Yaakov, la descendance de Yaakov, il y aura des traites, il y aura des infidèles, des infidélités, etc. Et malgré tout, il ne s'est pas empêché de le bénir. Il dit, caché. Le Rav, il dit, c'est difficile. Charé Rashi, il a expliqué sur le pasouk, Vaivarech Elohim et Yitzhak Beno. Donc il y a marqué que Avraham, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui a béni Yitzhak. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a béni Yitzhak, le fils de Avraham? Et pourquoi Abraham n'a pas béni lui-même directement son fils? Pourquoi il dit Rashi, chez Abraham, le ratza levarech et Yitzhak. Il n'a pas voulu bénir Yitzhak. Pourquoi? Oh, il ne sait pas chez la tête, mais non, et ça. Parce qu'Abraham, il a vu que de Yitzhak, il va sortir et ça. Il n'a pas voulu bénir Yitzhak. Parce que s'il bénit Yitzhak, la bracha, elle va aussi se répercuter aussi sur et ça. Donc il n'a pas voulu bénir Yitzhak parce qu'il y a et ça. Mais là, je vois que Yitzhak, il va bénir Yaakov, il sent la présence des infidèles, des descendants infidèles qui peuvent se trouver dans la descendance de Yaakov. Bogdav, les infidèles, les traites, les trahisons. Et malgré tout, ça n'empêche pas de bénir. Et pourquoi, malgré tout, il a béni? Je dis le Rav, Béchlomar, c'est Béchlomar, Nishtar Veva Umat Edom. De Esav, il va sortir une nation, un peuple qui est Edom. ושאני בין פושעי אומות העולם לפושעי ישראל, il y a une différence certaine, une distinction à faire entre les fauteurs, les réchaïm qu'il y a des nations, de Edom, et les réchaïm qu'il y a dans Israël eux-mêmes. Tirtiv, kefela harimon rakater. Il dit, voilà, le pasuk dans Shira Shirim, il compare Israël, kefela harimon, comme les corses de la grenade. Il dit rakater. Il dit afilo rekanim. Alors la Gemara, elle fait la drasha, elle ne dit pas rakater, elle dit rekanim shebar. Il dit que même ceux qui ont rien, zéro, ils n'ont aucune mitzvah, aucune Torah, ils sont vides de toute sainteté, de spiritualité, ils n'ont rien. Malgré tout cela, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade. J'ai afilo rekanim shebar, meleim mitzvot karimon. La Gemara, elle dit ça, que même les poches à Israël, les pires des Juifs, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade est pleine de graines. Véod, poches à Israël, en urshel geina, je l'étais de même. Alors aussi, la Gemara, elle dit que poches à Israël, les fauteurs d'Israël, poches à Israël, les traîtres, ceux qui font rien, le feu du Guéna, il ne peut pas avoir de prise sur eux. Pourquoi? Il dit, on apprend ça de la salamandre. À la fin de Hagiga, on apprend ça comme parce que eux, ils ont le feu, ils ne peuvent pas lutter contre le feu. Donc le feu, avec le feu, il ne peut pas, comme le misbéar, il est enduit d'or. Une petite pellicule d'or, elle préserve le misbéar à Ketore. Donc on met du feu, il n'y a rien qui se passe, ça ne nuit pas. Il dit la même chose, les mitzvot, elles procurent, elles sont comme un bouclier pour les Bnei Israël, que le feu ne peut pas avoir les atteindre. Mais oh, des maïté atteint un midrash, il gagne Yossi ben Meshita. Donc il y avait un monsieur qui s'appelait Yossi ben Meshita à l'époque des Grecs, que les Grecs, ils lui ont dit, rentre dans le temple et profane-le. Donc il est rentré une première fois, une deuxième fois. Après, ils lui ont dit, rentre dans le temple et une autre fois. Et là, quand ils lui ont ordonné la fois supplémentaire, il a refusé de rentrer. Alors il a dit, comment je suis rentré, j'ai profané le lieu saint de mon créateur. Et encore une fois, non, ça suffit, j'ai fait une fois, ça suffit, je veux plus refaire. Il a fait tchouba. Donc ils l'ont martyrisé, il n'a pas accepté, ils l'ont tué. Mishumari, donc on voit qu'il y a un type, un pochéa, et malgré tout, il a fait tchouva, il n'a pas voulu, il a profané une fois, il n'a pas voulu profaner, renouveler son acte, son offense. Donc il a fait tchouva. Mishumari, va y voir Réou, va y omer, Réa, béni, Kéréa, Sadé. C'est pour ça que Itzhak ici, il va le bénir. Il dit, regarde, le parfum qui émane de mon fils, il ressemble au parfum du champ. De quel champ il s'agit? Alors, des champs de Ralamaba. Vehita Hacham, Bamidrash. Re'erea Beni, il a dit, regarde le parfum de mon fils. Melamed, Shira, Lo, Akadosh Bohu, Betamigdash, Banoui. Il lui a montré le Rea, le Sadé, c'est fait référence au temple. Parce que Itzhak, il a marqué la Gemara, elle dit, Abraham, il a appelé le temple, une montagne. Itzhak, il a appelé le temple, un sadé, un champ. Parce qu'il a marqué, vous voyez, c'est Itzhak, la souah basadé. Parti faire la prière du champ. Dans le champ, quel champ? Betamikdash. Et Yaakov, il a appelé maison. Parce que quand il s'est réveillé du rêve, ce lieu-là, c'est le lieu, la maison de Dieu. Donc lui, il appelle champ. Donc c'est ça ce qu'il veut dire. Il a montré le Bet Amigdash construit, détruit et reconstruit. Alors il dit, il dit, regarde le parfum de mon fils. Et alors c'est la construction. Il est devenu un champ. Alors c'est un champ, il est détruit. Et après, caché, il dit, que ça veut dire ça? Il lui a dit, il sent le parfum, il dit, regarde l'odeur. Mais d'abord, le regarde, ça veut dire quoi, regarde l'odeur? Regarde le parfum, on ne peut pas regarder le parfum.
Le mot regarde.
Il n'est pas adapté. Il dit le Rav, Yeshlomar, Deita Bemidrash Rabba al Pasuk. Il y a marqué dans le Pasuk, dans Mishpatim, Im Kesef, Talve et Ami. Im Kesef, c'est pas si tu as, si tu veux, tu prêtes. Avec l'argent, Im. Im, c'est une mitzvah, comme il y a marqué, de mettre un roi. Il y a marqué Im. C'est pas Im, si tu veux, c'est une mitzvah. Im Kesef, Talve et Ami. Avec l'argent, tu vas prêter à mon peuple. Quand Salomon il a construit le temple, alors lors de l'inauguration, il a fait une très grande prière. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Ribon Olamim, il a dit maître du monde, maître des mondes. Im yesh adam shiyitpalel lefanecha, s'il y a un homme qui va se présenter devant toi, il va implorer et prier, shiyiten lo mamon, que tu lui donnes la richesse. Et toi, Hachem, tu sais, que cet argent-là, il n'est pas bon. C'est pas bon qu'il ait beaucoup d'argent, parce qu'il risque de fauter. Ça va lui causer de s'écarter de la Torah et des mitzvot. Alors on ne lui donne pas. Maintenant, à cet instant-là, où Yitzhak, il donne la bracha à Yaakov, il lui montre, il lui dévoile le temple construit. Fait un marlot, il lui dit, Réé, regarde, même si je t'octroie la bénédiction, je te donne la richesse, l'argent, la prospérité, la réussite, et tout ce que, et toute les, l'abondance totale. Il disait, sache que si cette richesse, elle n'est pas à ton avantage, ni celui de tes enfants, je veux pas que cette bénédiction se réalise. Je ne donne la bénédiction de la prospérité et de la réussite qu'à la condition que cette réussite matérielle ne te pousse pas à faire la avéra. Que moi, tfila chassa, que la même tfila que Shlomo HaMelech il a fait. Plus que ça, qu'est-il dit? Il dit, il lui a montré le temple détruit. Mishum d'Amrinan, parce qu'on dit dans la Gemara en Brachot, miyom shenichrav bet hamikdash nigzera gzera al batim shel tzadikim shiharvu. Depuis la destruction du temple, la gzera, le décret s'est abattu sur les maisons des justes, que les justes aussi leurs maisons soient détruites, qu'il n'ait pas opposé leurs pieds. Pourquoi? Parce que le juste, le serviteur, il doit être à l'image de son maître. De la même manière que le maître, à Kadosh Baruch Hu, il n'a plus de résidence. Donc il est un vagabond, entre guillemets. Il va de ça là. Il n'a pas où se poser. La même chose, le serviteur, il doit ressembler à son maître. Donc il doit être à l'image de son maître. Sha'av be'oto azman lo yochlu litkayem abrachot ketikunam. Il dit, même pendant cette période-là, la bracha ne pourra pas se réaliser dans toute sa plénitude et sa puissance. Donc toute cette période-là où le temple il est détruit, alors la bracha ne se réalise pas de manière parfaite. Parce que d'ailleurs, la evet liot kerabon. Donc il y a aussi à ajouter sur ça le Zohar, un peu dans l'Agdama de Bereshi, dans l'Agdama de Kitikunim, il parle de cette notion-là que les tzadikim, ils doivent être en chemin. Ils n'arrivent pas à trouver la place où se poser. C'est ça le sens même de la galoute. Et les juifs, ils allaient d'un endroit à l'autre, ils restaient un peu, après ils repartaient. C'est un vagabondage, entre guillemets, continuel. Pourquoi? Parce que c'est la maison, là, on n'a pas de lieu de où se poser. Et c'est comme ça qu'on est metaken la shekhina. De cette manière-là, donc on n'a pas ici dans ce monde, menoha, on n'est pas arrivé à destination. Et ça permet aussi d'être melaket toutes les nitzotzot qui sont répandues. Et le Tomer Deborah, il explique dans son livre que c'est ça le sens, que quand on a un invité, on va le raccompagner. On lui octroie de la shekhina du malchut de la maison, on lui octroie des énergies de sainteté pour qu'il puisse emprunter le chemin et arriver à une autre étape de son parcours. Et cette bracha-là, elle est réduite, elle est ponctuelle. Elle n'est pas dans sa puissance totale. Ça a le sens. Alors maintenant, pourquoi il dit Ré-Ré-Ar-Béni ? Regarde le parfum de mon fils. Parce que le parfum, c'est-à-dire que quand on a dans la spiritualité, ça c'est un niveau spirituel très élevé, c'est-à-dire que le concept de la spiritualité, quand on arrive à se détacher de la matérialité, on arrive à purifier son être, son corps, et on a des énergies, on s'adonne à la science profonde de la Kabbalah, des concepts spirituels très très profonds, alors on se détache de la matérialité. On arrive à voir ce qui ne se voit pas. C'est pour ça que dans le Zohar, en fait, l'odeur, le parfum, il ne s'agit pas juste d'un parfum. Il y a des énergies de agréables qui montent, qui émanent de l'accomplissement des mitzvot. Les énergies, ça donne une bonne odeur. Le parfum, il apaise les rigueurs et il lui procure un bien-être. Il dit ça, tu le vois. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans le Zohar, il dit « Tahazé, viens voir ». Viens voir, c'est-à-dire que le concept même intellectuel, tu arrives à lui donner une dimension, tu le vois dans une réalité physique, on dirait qu'il a une réalité. Et c'est ça l'enseignement profond de l'enseignement de Moshe Rabbeinu. J'explique juste un petit peu. Moshe Rabbeinu, il enseigne par exemple Parashat Tfilin. Alors comment on fait les Tfilin ? Alors il enseigne les Psukim, il enseigne les Shmorot, il enseigne les enseignements, Mais les gens, ça reste un concept intellectuel. Mais pratiquement, comment ça marche? Il faut me faire un... Montre-moi un, comment on fait le tefillin. Il faut de la peau. Comment on fait la peau? La pratique de la chose. Il faut un atelier pratique. Il dit, sache que lorsque mon cher Rabbeinu, il explique la Torah, il explique la halakha. La halakha, elle est en trois dimensions. Ceux qui entendent, ils voient. Et ils conçoivent devant eux, c'est comme si il y a un film en trois dimensions qui montre comment on fait la chose. Toutes les paroles de Moshe prennent une dimension de réalité. Alors ceux qui ont la chokhma de comprendre, alors ils voient les choses de manière claire devant eux, comme si c'était un film qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire du parchemin, quelqu'un qui est en train d'écrire sur le parchemin, quelqu'un qui est en train de faire les coques de tefillin, il est en train de façonner les compartiments des coques, il est en train de faire les lanières, etc. Donc la parole, elle prend une dimension telle que c'est une réalité, on voit la chokhma qui est une réalité physique réelle devant nous, comme si qu'elle avait une mamachoute. Ça c'est le Einyan de concevoir, c'est pour ça qu'à chaque fois il y a marqué « ré » et « observe ». Alors qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas une réalité. Comme il dit, Ré, observe, je place devant toi la bracha et la clala. C'est-à-dire quoi? Je place devant toi. Et est-ce que c'est au sens figuré? Non, c'est au sens réel. Quand Moshe Rabbeinu il parle, alors il y a devant lui celui qui a la chokhma, comme il dit le Zohar, Tahazé, viens voir. Celui qui arrive à voir, alors il voit. Il voit quoi? Il voit la bracha. Tout ce que ça comporte là-bas. Il voit Hadusham, toute la clala, il voit, elle est posée devant lui, il voit. C'est une réalité. C'est ce qui est marqué dans Mahamad Arsinaï. Ils ont vu ce qui s'entend et ils ont entendu ce qu'ils ont vu. Parce que même quand on leur montre, alors ils l'entendent. À l'envers. C'est-à-dire que si je te place le film de la dracha de Moshe, mais Moshe, il ne parle pas. Alors j'ai les tefillin, etc. De l'atelier, de ce film-là, que le parchemin, les parachiotes, les coques, comment on les fabrique, tout ça, on te place. Tu pars de cette action-là pratique, de cette vision, tu retournes à la parole de Moshe. Tu arrives à reconstituer la parole de Moshe. C'est dans les deux sens que ça se passe. Et c'est ce qui a marqué Ré-é, Ré-ar béni, Ké-ré-ar sadé. Regarde le parfum de mon fils, c'est comme le parfum du Beth Amikdash. Donc il voit le Beth Amikdash. Le parfum, c'est les kohot akdusha qui se répandent et qui apportent l'apaisement et qui ont une réalité physique. Si on arrive à ça, hein, c'est ça qu'à chaque fois il y a marqué observe, regarde. Même le Tserara, quand on dit le Tserara, il doit être au sujet de Yosef. C'est marqué dans la paracha que Yosef, il a été vendu, il était dans la maison de Potiphar. Alors, à la fin du passage, il est dit, mais Yosef, il fait toi, il fait marrer. Il était beau. Yosef, il était beau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi, il était beau? Il était beau. Rachid, il dit, il s'arrangeait. Il faisait beau. Alors, après, Rachid, il dit, juste après, il a marqué que la femme de Potiphar, elle s'est levée, elle a voulu le séduire. Rachid, il dit, toi, Yosef, ton père, il est dans le deuil, il se lamente, il pleure sur ta disparition, et toi, tu te fais beau. Hayecha, il dit Rachid, Hayecha, c'est un midrash. Hayecha, sur ta vie, ani megare becha et adov. Voilà, je vais t'envoyer l'ours pour t'attaquer. C'est qui l'ours? C'est la femme de Potiphar, la tentation de la Havera. La question se pose, pourquoi il dit un ours? Pourquoi il dit pas, je vais te mettre à l'épreuve? C'est quoi, la femme de Potiphar, c'est une très belle femme, une beauté exceptionnelle. Et pourquoi tu la compares à un ours? Il dit, c'est ça le Hainan. C'est-à-dire que la Havera, elle a une forme. Quelle forme elle prend? La séduction, la beauté. Je ne vais pas être séduit par une tentation qui n'est pas belle. La tentation, par excellence, elle prend l'aspect de la beauté. Mais c'est une tentation, c'est une Havera. Mais la Havera, c'est quoi? C'est la mort. Alors, si tu arrives à observer la Havera, la séduction, la tentation, tu arrives à dépasser l'apparence qu'elle a. L'apparence que ça a. C'est quoi cette apparence? L'apparence, c'est une très belle femme. Donc on est tenté d'être séduit, d'y aller. Mais si tu arrives à dépasser, tu vois quoi derrière? Tu vois que c'est un dove. En vérité, c'est un dove, une bête féroce, cruelle, qui veut juste te prendre ton âme, te tuer. Si tu arrives à voir ça, alors tu ne vas pas fauter. Et c'est ça que j'ai compris ce pirouche-là. Une fois, j'ai vu, il y a très longtemps, quelqu'un m'a montré un extrait d'un film. De quoi il s'agissait? On ne rappelle plus comment ça s'appelle. Mais il y avait une invasion sur Terre d'extraterrestres. Donc on les voit qui descendent de la soucoupe volante, ils ont une forme atroce. Hachem Irahem, on voit cette forme-là, on est pris de tremblement. Et on voit que cette forme-là, cet être abject, il prend la forme d'une très belle femme. Donc ces êtres-là, ils ont besoin de boire du sang ou je ne sais pas. Alors cette femme-là, elle prend une apparence de la plus belle des femmes, une beauté extraordinaire. Et elle va essayer de séduire, elle va dans un cabaret et elle essaye de, une boîte de nuit, elle essaye de séduire un homme. Et elle incite jusqu'au moment où l'homme, il se laisse séduire. Et elle sort, et au moment où il vient pour l'embrasser, elle reprend sa forme initiale d'être abjecte et elle avale, elle le mange entier. Et c'est exactement ça, cette image-là, de ce film, c'est exactement ce que Rachid veut dire. Si tu arrives à percevoir cet être sanguinaire, dangereux, abject, abominable, qui se cache derrière la beauté éphémère ou apparente ou de séduction, alors tu vois que c'est vraiment un dôme. C'est ça la force de l'observation. Arriver au niveau de voir cela dans la Kedusha, et de voir cela dans la tentation. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.